s'est dit que c'était une bonne idée, enfin on espère, de profiter de proposer aux gens de visiter, de sortir, et qu'ils à sortir de d'aller voir les traces du monde romain. Et l'idée, c'était de rappeler que la Bretagne, l'Armorique à l'époque, avait été occupée par les Romains, même s'il faut comprendre ce terme d'occupation de façon tout à fait particulière. Et puis d'aller sur ces sites qui ont été restaurés, qui sont tout à fait intéressants, spectaculaires, et que les gens, qui sont souvent en accès libre, et que beaucoup de gens ignorent, en fait, beaucoup de gens ne savent pas ou peu qu'il y a de très jolis sites en Finistère, en Bretagne, et un petit peu au-delà, et donc ça vaut la peine d'aller les voir et les visiter. Voilà, donc pour un déconfinement culturel et antique, visitez les sites romains de la péninsule armoricaine.
Alors on va essayer de découvrir quelques lieux plus tard. Avant cela, est-ce qu'on peut essayer de borner en termes de chronologie des traces les plus anciennes ou plus récentes, par exemple ?
Alors, pour faire simple, la chronologie, en fait, est tout à fait classique. Donc, il y a des contacts entre les Grecs et les Romains, peut-être des Carthaginois, au 3e, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, Jules César entreprend la conquête de la Gaule. Et donc, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée, hein, y compris le village gaulois que tout le monde connaît. Et donc, la romanisation se met en place, d'abord assez lentement au 1er siècle avant, et au début du 1er siècle après Jésus-Christ, puis ensuite, cette romanisation se fait de façon tout à fait normale, et les Romains s'installent, ou bien les Gaulois se romanisent, parce qu'il est très difficile de faire la part entre les Romains importés et puis les Gaulois romanisés. Et ces Gaulois vivent de façon assez sereine jusqu'au milieu du 3e siècle. Après Jésus-Christ, au 3e siècle, pour des tas de raisons qui sont liées à des mouvements de population en Asie qui ont des effets en Europe, qui sont liés peut-être à des changements économiques, changements démographiques, changements de climat, ce qu'on appelle les barbares, qui sont en fait des peuples germaniques ou celtiques d'ailleurs, parce que dans les barbares, vous avez aussi trouvé les Scots, les Pictes, etc. Donc ces barbares se font de plus en plus insistants, et ça correspond à un moment où l'Empire romain est en difficulté. Donc, dans les années 270, on a une grosse crise à la fois politique, économique et militaire. Et là, on voit à travers l'archéologie, un petit peu à travers les témoignages historiques et beaucoup à travers l'archéologie, qu'il y a vraiment un changement de société. Les grandes villes romaines, ces grandes résidences de plaisance et de travail agricoles sont modifiées, sont abandonnées, tombent en ruine, sont reprises par des populations qui visiblement n'étaient pas habituées à vivre dans les murs en dur. Et donc petit à petit, entre le dernier tiers du 3e siècle et le 5e siècle, on passe petit à petit de l'Antiquité tardive au Moyen-Âge. Ça se place en même temps, en gros, avec l'arrivée des premiers Bretons, etc. Donc une déprise du monde romain et puis le passage dans un autre monde. Donc en gros, on a une chronologie qui est tout à fait classique. Milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ pour l'occupation et la romanisation. 3e siècle, fin du 3e siècle après Jésus-Christ, début de la déprise et petit à petit transition de l'Armorique romaine vers la Bretagne.
Qu'est-ce que ça détermine comme territoire l'Armorique ?
Alors l'Armorique c'est un petit peu particulier. Alors on évite d'utiliser le terme Bretagne pour l'époque romaine parce que c'est anachronique, les Bretons étant arrivés après. Donc le terme armorique est pratique parce que ça évite d'employer donc le mot Bretagne pour parler de la péninsule. Cela dit, le terme existe bien dans l'Antiquité, il est connu des Grecs et des Romains, mais l'armorique est une zone beaucoup plus vaste puisque en fait ce sont pour faire simplement, ce sont les peuples qui bordent la mer de l'estuaire de la Seine à presque à l'estuaire de la Gironde, hein. Disons la façade maritime ouest avec qui déborderait sur la basse Normandie, une partie du Poitou, etc. Donc On a un ensemble de peuples là, qu'on appelle les peuples armoricains, et qui ont un certain nombre de choses en commun, de relever pour certains d'une même autorité. Par exemple, d'un point de vue religieux, c'est un héritage romain, c'est ce qu'on appelle la troisième lyonnaise, ou bien d'avoir, à l'époque gauloise déjà, d'autres points communs, comme l'utilisation d'une monnaie spécifique, qui est le stater. Donc on a un ensemble de peuples maritimes, armoricains, et d'un point de vue pratique, pour éviter d'employer le terme Bretagne, on a tendance à qualifier la Bretagne à l'époque romaine d'armorique. C'est un petit peu ambigu, mais bon. Les gens s'y retrouvent.
Qu'est-ce qu'on entend par, enfin, étymologiquement parlant, armorique, qu'est-ce que ça peut signifier ?
Oh ben, comme ça n'a pas changé, les peuples qui bordent la mer, tout simplement. Les armoricains sont ceux qui sont près d'Armor, c'est-à-dire la mer. Hein, et on retrouve l'étymologie celtique dans le terme romain.
Quel intérêt pour les Romains d'administrer l'armorique ?
Alors, en fait, les Romains donc ont occupé la Gaule pour bon, des raisons sans doute de colonisation, raisons économiques, raisons militaires, l'orgueil de César aussi, etc. Bon, et ils ont intégré la Gaule comme ils avaient intégré l'Italie, la Grèce, l'Afrique du Nord, l'Égypte, etc. à leur empire. Cela dit, ça n'a pas dû être trop violent. C'est pas une occupation comme celle que la France a pu connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Par exemple, on sait, de tous les lecteurs d'Astérix imaginent qu'il y avait des camps romains partout, et les archéologues du 19e siècle ont vu des camps romains partout. Or, on sait qu'en fait, des camps romains, il n'y en avait pas, ou très peu. En Armorique, on n'en connaît pas, de l'époque du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et quand on connaît des édifices militaires romains, c'est le cas par exemple à Alette, c'est le cas à Brest, c'est le cas au Yodet, eh bien ce sont des établissements qui ont été construits pour protéger la population et non pas pour l'occuper. Donc c'est une situation tout à fait curieuse. Bon, il y a forcément débat parce que c'est une période qui est mal renseignée, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les élites gauloises se sont assez bien adaptées à la romanisation. Et d'autant plus que les Romains étaient des gens intelligents et savaient qu'ils pouvaient difficilement administrer un ensemble comme la Gaule par la force. Et donc, ils ont favorisé ce fonctionnement. Ils ont gardé les structures qui devaient être à peu près celles qui étaient en fonction avant la romanisation. Ils les ont simplement contrôlées. Ça a certainement été violent dans la région de Vannes parce que les Vénètes étaient montré particulièrement agressif contre les Romains. Ailleurs, passé les épisodes militaires, ça a dû se passer relativement bien. Donc, les élites gauloises se sont vite romanisées, ont sans doute fusionné assez facilement avec les élites romaines. Comme d'ailleurs à la fin de la période, il semblerait que les élites romaines de l'Armorique finissante se soient assez bien entendues avec les élites bretonnes qui s'installaient petit à petit et qui allaient transformer l'Armorique en Bretagne. Donc, plus qu'une occupation, c'est une fusion d'intérêts, une communion d'intérêts, et puis une transition avec des épisodes violents. On peut pas dire que la guerre n'ait pas été un épisode violent, la guerre des Gaules. Certains soulèvements qui ont pu avoir lieu au 1er siècle ou bien des agressions du 3e siècle, mais globalement, les choses se sont plutôt bien passées et par communauté d'intérêt.
Et globalement, on retient ce terme de Pax Romana, quoi, qui était synonyme plus ou moins de prospérité, quoi, avec oui. Quelques contrastes. Quoi.
Voilà, et tout à fait. Les Romains ont développé ou entretenu un certain nombre de systèmes économiques. Alors, tout le monde a en tête les voies romaines, par exemple, qui permettaient de circuler à travers tout l'Empire rapidement et en sécurité. Alors, c'est tout à fait vrai, simplement, actuellement, beaucoup d'archéologues et d'historiens parlent de voies antiques, parce que si les Romains ont aménagé des voies romaines en Armorique comme ailleurs, ils ont sans doute aussi repris des voies qui existaient déjà. Là, ils n'ont pas forcément tout révolutionné. Mais disons que ils administraient bien leur empire. Les populations autochtones avaient une certaine liberté. Elles étaient administrées par des gens qui étaient issus de la cité. Elles s'auto-administraient elles-mêmes. La paix qu'avait apporté l'Empire romain était très favorable à l'économie. Le système économique existant à l'époque gauloise a sans doute perduré en s'adaptant à l'époque romaine. Et donc on a au 1er siècle et au 2e siècle une belle période de prospérité, troublée par quelques épisodes mais sans grande envergure. Et donc on voit apparaître les villes déjà. Pour rappeler, dans le Finistère, une grande ville qui est Carhaix, qui est la capitale de la cité des Ossismes, la cité romaine des Ossismes, une autre qui est Vorgium, donc en latin, une autre ville, petite ville qui est Vorganium, située à Quirinien, Quatalec, en Ploudéventer, et puis sans doute d'autres villes, petites villes ou bourgades, il y a certainement déjà quelque chose à Quimper, par exemple, et ailleurs. Donc à Huelgoat, par exemple, on a aussi certainement des choses. Donc une administration assez sereine, une population qui s'est bien adaptée, une économie qui fonctionne bien, et une civilisation qui réussit aussi aux Gaulois, puisque manifestement les Gaulois romanisés se sont bien plu pour les élites dans les villas, dans les villes. Ils se sont servis très vite. Ils ont adopté par exemple le système thermal de bains typiquement romains avec ces baignoires d'eau froide, d'eau tiède et d'eau chaude, etc. Donc on a une romanisation qui s'est relativement bien passé et qui a bénéficié à des Gaulois désormais devenus romains.
Alors, dans cette histoire de l'Armorique, au temps des Romains, il y a bien sûr peut-être Jules César qui avait une certaine connaissance de l'Armorique. On le sait, ça ou pas? Est-ce qu'on a globalement, est-ce que cette période est bien documentée?
Alors non, on aimerait bien qu'elle soit mieux documentée. Mon collègue Jean-Yves Éveillard a publié un ouvrage où il reprend tous les textes qui ont été publiés dans l'Antiquité sur l'Armorique. C'est un ouvrage qui est paru chez Scholvrays à Morlaix. Et les Romains sont assez mal renseignés sur les Gaulois en général et les Armoricains en particulier. César nous parle abondamment des Vénètes. Hein. Pour les autres, ils mentionnent les peuples armoricains quand ils sont ligués contre les Romains, mais c'est assez piégeux parce que la tradition de l'écriture romaine, c'est qu'un ouvrage est bon quand il s'inspire d'ouvrages plus anciens. Et on sait que César, dans sa description de la Gaule, de la religion gauloise, des traditions, etc., nous décrit en fait la Gaule telle qu'il l'aperçoit à travers ses propres lectures. Il connaît parfaitement la Gaule, un de ses proches est druide, la tradition veut qu'on ne s'appuie pas sur son expérience. Alors, quand il décrit ses campagnes, c'est de lui qu'il parle et de son armée. En revanche, quand il parle de civilisation, ils appuient sur les anciens grecs et romains, qui faussent un peu le discours, et il faut être prudent dans l'interprétation des textes antiques à cause de ça. Ils ont un peu tendance à se répéter et à répéter des sortes d'évidences qui ont peut-être été valables à une époque, mais qui ne sont plus forcément valables 100 ou 150 ans après. Donc une connaissance de l'armorique, oui, mais sans doute assez lacunaire ou assez générale.
Alors, 2000 ans plus tard, où est-ce qu'on peut voir des traces de Rome en Bretagne?
Alors, partout. Partout. Alors, déjà, il faut oublier cette idée que l'intérieur de la Bretagne, on est très marqué par Astérix et Obélix, qui eux-mêmes étaient très marqués se sont servis et ont utilisé, ont détourné les auteurs du 19e siècle. On imagine toujours qu'il n'y a que les côtes qui étaient romanisées, que la romanisation était partielle et que les Gaulois ne rêvaient que d'une chose, se soulever contre les Romains, un peu comme les Français en 40 contre les Allemands. En réalité, toute l'Armorique est romanisée, l'intérieur comme l'extérieur. La preuve, c'est que Carhaix, le chef-lieu de la cité des Ossismes, est en plein cœur du département actuel et du Creys-Breys, du centre-Bretagne, et on sait qu'il existe des routes, des villages, des petites villes dans l'intérieur de la Bretagne. Donc toute la Bretagne est romanisée, et donc on a des établissements romains un petit peu partout. La carte archéologique de la Gaule qui est un ouvrage, mais qui est renouvelé au fil des fouilles archéologiques, montre qu'on a, on a des établissements romains un peu partout. Alors, on en a quand même plus le long des voies romaines et sur les côtes, pour des raisons évidentes de confort de vie, de facilité de déplacement, etc. Et on a, alors, beaucoup d'endroits ont été fouillés, mais soit les trous ont été rebouchés ou les fouilles détruites par la construction d'un grand ensemble, etc. Mais on a quand même quelques sites qui ont été conservés. Alors certains ont été conservés un peu par, ont été fossilisés, c'est le cas des remparts. Si vous visitez les remparts de Vannes, les remparts de Rennes, ce qui reste des remparts de Nantes aussi, ou bien des remparts de Brest, vous verrez des murs romains. Tout le château de Brest est appuyé sur des murs romains qui sont encore conservés sur plusieurs mètres de hauteur. Quand on descend dans la Douve pour aller vers le musée naval, par exemple, on longe une belle courtine romaine et on distingue des traces de tours qui ont été arasées par Vauban pour faciliter le tir des canons. Voilà. Donc ça, c'est de la fin de l'Empire. Et autrement, on a des villes qui ont été fouillées, certaines en partie mises en valeur. Il y a deux exemples intéressants qui sont Carhaix. La ville de Carhaix, la ville romaine a été fouillée et certains bâtiments ont été mis en valeur. À Carhaix, par exemple, on avait un édifice tout à fait remarquable qui est un aqueduc. Il n'y a pas eu beaucoup d'aqueducs de construits en Bretagne, que ni le relief ni la météo ne s'y prêtaient, mais à Carhaix, visiblement, ils avaient envie d'un aqueduc, ils l'ont construit, on en a encore des tronçons, et puis certains quartiers ont été fouillés, et mis en valeur et aménagés avec un centre d'interprétation. Il y a un deuxième endroit où on a de très beaux restes, alors c'est pas en Finistère, c'est en Côte d'Armor, c'est à Corseul, mais à Corseul, on a une rue romaine qui a été reconstituée par les archéologues, enfin reconstituée, qui a été fouillée et mise en valeur par les archéologues, et on a quand même une impression, même, c'est pas Pompéi, hein, on est bien d'accord, mais on a quand même une impression de remonter le temps, bon, peu qu'il fasse beau, qu'on ferme les yeux et qu'on oublie de louer des voitures, si on a un peu d'imagination, on y est.
Alors,
après, on a des... Pardon, on a des sites plus petits, mais très facilement accessibles. Par exemple, à Plomelin, côté de Quimper, des archéologues ont fouillé depuis le 19e siècle les thermes d'une villa, et ces thermes ont été mis en valeur, ont été restaurés, ont été aménagés pour la visite. Même chose à Plestin-les-Grèves pour les thermes du Haut-Golo, de la villa du Haut-Golo qui, pareil, ont été mis en valeur. Il y a des panneaux explicatifs qui sont très bien faits, on peut entrer dans le bâtiment thermal. La reconstitution, la restitution a été faite très très sérieusement, très très intéressant. On a un autre, toujours à Plestin-les-Grèves, on a un petit temple romain qui a été aussi dont les murs ont été consolidés et qui est accessible. À Mordel, dans la région de Rennes, un autre petit temple romain. Et puis, sur le chemin des vacances ou de retour des vacances, là on quitte la Bretagne, mais on reste en Armorique, c'est Jublin, donc en Mayenne, hein, dans la cité des Olerques de Diablinthe, où là on a une petite ville romaine qui est bien conservée, avec... Un gros ensemble fortifié qui servait sans doute à abriter du blé, qui ensuite était envoyé à Rome en cas de nécessité, un temple, un théâtre qui est bien conservé, bien mis en valeur, et des ruines romaines. C'est un bel exemple de restauration. Donc on a un petit peu partout comme ça des sites qui sont visitables, qui sont accessibles gratuitement en général ou pour quelques euros, mais on peut se faire une tournée de Bretagne des sites romains et c'est très intéressant.
Est-ce que d'un point de vue archéologique, on découvre encore des choses aujourd'hui ?
Oui. On découvre en permanence des choses. Alors, une des grandes évolutions de l'archéologie contemporaine, c'est que on a deux grandes évolutions. La première, c'est qu'il arrive qu'on fouille de très grands espaces. Par exemple, lors des travaux d'aménagement du secteur Saint-Divy-Guipava, où on construit toutes sortes de grands bâtiments, les archéologues ont fouillé plusieurs dizaines d'hectares. Et donc, ça fait apparaître des petits établissements romains, des petits établissements du haut Moyen-Âge. À côté d'un établissement romain, les archéologues ont même trouvé la carrière qui avait été aménagée. Ils ont pu fouiller la carrière qui avait été aménagée par les Romains pour extraire la pierre qui leur servait à construire leur maison. Donc ça, c'est très intéressant parce que au lieu d'avoir un site au milieu d'un champ, on a une vision d'ensemble sur plusieurs hectares qui est très très riche. Et puis l'autre évolution, c'est que contrairement au 19e où les archéologues se contentaient de creuser en longeant les murs, désormais les archéologues vont descendre dans le sol pour essayer de comprendre les différentes épaisseurs, essayer de repérer les continuités ou les discontinuités, essayer de savoir s'il y avait déjà du monde avant ou pas. C'est le cas par exemple au Yodet. Le Yodet, c'est en Ploulaire, dans les Côtes d'Armor. Et au Yodet, Brigham Leaf, qui est un archéologue d'Oxford, un des spécialistes internationaux du monde celtique, du monde gaulois, et puis Patrick Galliou, ont bien montré l'occupation du néolithique, en passant par l'âge du bronze, l'âge du fer, l'époque romaine et l'époque médiévale. Donc les fouilles archéologiques et la réflexion s'inscrivent dans la longue durée, et c'est tout à fait intéressant. Et puis, sur le nombre de découvertes, les travaux de routiers, l'aménagement des villes, la construction de pavillons, etc., amènent, quand on repère quelque chose, à aller fouiller. Et donc, il y a en permanence, si on suit un peu l'archéologie de l'INRAP, par exemple, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ils ont des sites qui sont très bien faits, leurs rapports de fouilles sont en ligne, etc., et on voit qu'ils travaillent abondamment. Et sur des sites tout à fait intéressants. On a vu par exemple récemment la découverte d'une très grande villa romaine dans la région de Rennes avec un décor bien conservé, etc. C'est tout à fait intéressant. Il y a aussi des fouilles à Carhaix. Enfin, donc oui, c'est une connaissance qui progresse sans arrêt et qui est tout à fait innovante et tout à fait utile et menée par des grands spécialistes que sont des archéologues de l'époque contemporaine.
Alors une question peut-être, vous avez parlé de l'occupation. Pour revenir un petit peu au rôle de l'administration romaine dans le découpage territorial, par exemple, est-ce que certaines choses ont pu perdurer à travers le temps et être, pourquoi pas, encore d'actualité aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, l'armorique romaine, alors c'est en simplifiant, mais pas trop, l'armorique romaine était divisée en cinq, l'armorique devenue Bretagne, en cinq cités, la cité des Ossines, les Coriosolites, des Redones, des Lamnettes et des Vénètes, qui correspondent grosso modo, condition de tordre un peu la carte, aux cinq départements de la Bretagne historique, par exemple. Les trois grandes cités de Rennes, de Vannes et de Nantes avaient pour capitale Rennes, Vannes et Nantes. Et ça n'a pas bougé. À Brest, l'armée romaine s'est implantée au IIIe siècle dans le château. Elle a construit le château pour protéger l'extrémité ouest de l'armorique. Et actuellement, il y a toujours des militaires dans le château. Je pense, je ne suis pas vérifié, mais je pense que c'est le cas le plus ancien et le plus long d'occupation militaire d'un site en France, puisque cette occupation militaire a quasiment été continue du IIIe siècle au XXIe siècle. Donc, on a un certain nombre de choses qui ont perduré. Le réseau routier n'est pas forcément romain d'origine, mais quand même, si on regarde comment les gens circulaient à l'époque romaine et médiévale, on se rend compte qu'il y a deux grands axes qui correspondent, là encore, schématiquement, mais quand même, à la RN12 au nord et à la RN165 au sud. Donc on est dans des, il y a quand même un certain nombre de constantes qui sont liées à la fois à l'histoire. Le pouvoir à Vannes, à Rennes et à Nantes n'a pas bougé entre l'Antiquité, le Moyen Âge et l'époque moderne et contemporaine, et les axes routiers non plus. Enfin, quand il faut circuler, on cherche les endroits les plus facilement accessibles, les pentes les moins fortes, etc. Donc, ce qui était valable à l'époque romaine reste encore valable actuellement. Donc, on a pas mal de choses qui sont héritées de l'époque romaine, avec quand même quelques modifications, parce que les Bretons, en arrivant à partir du 4e, du 5e siècle, 6e siècle, ont quand même modifié un certain nombre de choses. Par exemple, si les grandes cités de Rennes, de Nantes et de Vannes sont restées à peu près stables, la cité des Ossismes a cassé en trois morceaux qui ont donné la Cornouaille, le Léon et le Trégor. Et la cité des Coriosolites a été cassée elle aussi entre le diocèse de Saint-Malo, le diocèse de Saint-Brieuc et puis des enclaves de Dole. Donc il y a eu quelques adaptations par endroit, mais on doit encore beaucoup à l'époque romaine dans ce qu'on connaît de la Bretagne actuelle.
Eh bien, merci beaucoup Yves Coitivi pour cette petite histoire romaine en armorique. Du côté des visites ou des conférences animées par la Société archéologique du Finistère, tout est en stand-by, j'imagine. Mais pour
Oui, l'affaire. Désolé. Oui, c'est un peu la misère actuellement puisque le Covid nous a empêchés de nous réunir. Donc les dernières conférences ont été annulées. Même chose pour les visites. On avait une visite qui était prévue dans le centre Bretagne. Elle a été annulée. Une autre qui est encore bancale pour la fin du mois de juillet. Et il était question qu'on aille à Ouessant. On a entamé une série de visites d'îles qui se placent en général à la fin du mois d'août. On a déjà été à Molène, à l'île de Sein, à l'île de Bas, et j'ai peur que du fait des contraintes liées au virus, on ne puisse pas aller à l'île d'Ouessant. Donc on est en train d'essayer de réfléchir à la façon de pallier ces problèmes, mais ce n'est vraiment pas facile. À partir du moment où on ne peut pas se réunir en nombre, on ne peut pas prendre des transports en commun ou en tout cas des bus et déjeuner au restaurant. C'est pas facile de monter des excursions qui soient un peu denses. Donc là actuellement c'est un peu très calme.
Bon, il va falloir penser aux conférences, aux webinaires à distance alors.
Voilà, on a plus insisté d'ailleurs, on a plus communiqué via la boîte mail, le site de la Société archéologique et la page Facebook, justement pour animer un peu et dire qu'on continuait à travailler ou en tout cas proposer des choses à défaut de cycles de conférences et de d'excursions. Et il y a quand même une nouveauté là qui va paraître sans tarder, le bulletin de la Société archéologique. Il a pris un petit peu de retard, mais il est chez l'imprimeur, donc on devrait l'avoir dans les boîtes aux lettres d'ici une quinzaine de jours, peut-être moins, j'espère.
Et qu'est-ce qu'il y aura dedans?
Alors, une vingtaine d'articles, alors toujours de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire révolutionnaire, des études d'histoire de l'art sur une famille de sculpteurs brestois, sur la révolution dans le Léon, ou bien un article sur la façon dont il a été compliqué de traduire le Notre Père en breton. On a un article très documenté sur la traduction officielle du Paternoster en breton et comment les discussions et le choix des mots s'est fait. Donc voilà, c'est toujours très varié comme d'habitude à la Société archéologique et très intéressant et très solide.
Eh bien, merci beaucoup Yves Quatievi.
Je vous en prie.